Bonjour à tous, c'est Marc, bienvenue au bonheurpourtous.info 7e épisode, avec aujourd'hui la traduction du 7e chapitre du livre audio La communication non violente de Marshall Rosenberg. Un coucou à Karine qui a laissé un nouveau commentaire sur iTunes. Elle dit qu'elle a été touchée d'entendre parler d'elle dans le podcast et qu'elle aime toujours autant écouter cette traduction. Je te remercie Karine, moi j'apprécie beaucoup les commentaires sur iTunes parce que je pense que ça contribue beaucoup à faire connaître le podcast et donc à apporter ces informations que je trouve vraiment importantes à plus de monde. Je sais que pour moi ce que dit Marshall Rosenberg ça a été et c'est toujours inestimable et chaque jour ça le devient encore plus au fur et à mesure que j'intègre tout ça de plus en plus. Une fois d'ailleurs que la traduction de ce livre audio sur la CNV sera finie, on parlera aussi d'autres choses qui me paraissent aussi très importantes pour être heureux, mais pour l'instant aujourd'hui, voici le 7e chapitre de La communication non violente de Marshall Rosenberg. Chapitre 7. Exprimer nos ressentis. Donc, savoir séparer nos observations de nos évaluations est un des trois éléments pour apprendre à exprimer ce qui est vivant en nous. Le deuxième élément, sur lequel je voudrais me porter maintenant, est comment exprimer clairement nos ressentis à n'importe quel moment donné. Parce que, ensuite, c'est à nos ressentis et à nos besoins qu'on va s'intéresser, après comment exprimer nos ressentis. Ces deux éléments ensemble, nos ressentis et nos besoins, sont la meilleure façon que j'ai jamais apprise pour se connecter à la vie aussi bien en moi-même que chez les autres. Il y a un poème avec lequel ma sensibilité résonne, dont le titre est « Le masque ». Malheureusement, j'ai oublié qui l'a écrit, mais ce poème m'aide à prendre conscience qu'on est beaucoup à ne pas avoir un langage vivant, on ne sait pas comment dire ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin. Et combien cela est triste quand tout ce qu'on sait faire, c'est exprimer des pensées qui nous détachent de la vie chez nous-mêmes et chez les autres. Le poème dit « Toujours un masque tenu par cette fine main. Toujours elle avait devant son visage ce masque. » Tenu si légèrement, si parfaitement. Parfois, cependant, y avait-il un tremblement, une hésitation dans la main qui tenait le masque? Des années, je me suis demandé, mais sans rien oser. Et un jour, par mégarde, j'ai regardé derrière le masque. Pour n'y trouver absolument rien, elle n'avait pas de visage. Elle était devenue juste une main qui, avec grâce, tenait un masque. On est tellement à se promener comme des personnes gentilles et mortes, parce qu'on nous a enseigné un langage de domination qui nous fait nous inquiéter à chaque moment de ce que les gens pensent que nous sommes. Est-ce qu'ils pensent que je suis normal, anormal, gentil, pas gentil, beau, moche? Et plus nous nous occupons à ce niveau, et plus nous sommes déconnectés de la vie en nous, de nos émotions humaines. Le psychanalyste Rollo May suggère que la personne mûre devient capable de distinguer ses ressentis en autant de nuances, d'expériences fortes et passionnées ou bien délicates et sensibles, qu'il y en a dans les passages de musique d'une symphonie. Pour beaucoup d'entre nous cependant, notre capacité à exprimer nos ressentis avec la palette que Rollo May décrit est plutôt limitée, comme les notes d'un appel de clairon. Notre répertoire de mots pour insulter les gens est bien plus vaste habituellement que l'est notre vocabulaire de mots qui nous permettent de décrire clairement ce qui est vivant en nous, notre état émotionnel. J'ai passé 21 ans à l'école puis à l'université et je ne me souviens d'aucune fois où on m'ait demandé comment je me sentais. Les émotions, les ressentis n'étaient simplement pas considérés comme ayant la moindre importance. Ce qui était important, c'était, entre guillemets, la bonne façon de penser. Fermez les guillemets. Telle que la définissaient les gens qui avaient des positions d'autorité dans la hiérarchie. Trop souvent dans mon expérience, nous sommes éduqués à nous focaliser sur les autres, au lieu d'être en contact avec nous-mêmes. Nous apprenons à être là-haut dans notre tête, à nous préoccuper de deviner « qu'est-ce que d'autres pensent qu'il faut que je dise et que je fasse ?» Une interaction que j'ai eue avec une enseignante, quand j'avais environ 9 ans, montre bien comment cette aliénation de nos ressentis peut commencer. Un jour, je me cachais dans une salle de classe après que l'école soit fermée. Ça faisait 1h30 que l'école était fermée. Et je me cachais parce qu'il y avait un groupe d'élèves dehors qui voulaient me punir parce que j'étais juif. Une enseignante me trouva caché dans la classe, elle était surprise de voir un élève encore dans l'école 1h30 après la fin des cours. Elle ne savait pas que j'essayais d'être plus patient que ceux qui m'attendaient dehors. Et elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Allez dehors, tu n'as rien à faire ici à cette heure-ci. » Et je lui dis « Ces garçons dehors attendent pour me tabasser. » Elle dit « Mais l'école est fermée, tu dois sortir d'ici. » Je dis « Mais j'ai peur. » Et elle dit « Les garçons n'ont pas peur. » Quelques années plus tard, j'ai reçu des renforcements supplémentaires pour cette façon de penser en participant à des sports collectifs. Il était normal pour les entraîneurs de préférer les joueurs qui étaient prêts à tout donner et à continuer à jouer malgré la douleur physique qu'ils pouvaient ressentir. J'avais si bien appris la leçon qu'une fois j'ai continué à jouer au baseball pendant un mois avec un poignet cassé sans le faire soigner. Lors d'un stage de communication non violente, un étudiant parlait d'un camarade qui l'empêchait de dormir parce qu'il mettait la musique très fort dans leur chambre au dortoir de l'université. Lorsque je lui ai demandé de dire comment il se sent dans ces moments-là, il répondit « Je sens que ce n'est pas correct de mettre la musique si fort la nuit. » Je fis la remarque que quand il fait suivre les mots « je sens » par le mot « que »,« je sens que », il exprime une opinion, mais il ne révèle pas ses ressentis. Je lui ai demandé d'essayer à nouveau d'exprimer ses ressentis, il répondit « Je sens quand les gens font quelque chose comme ça, c'est signe d'un trouble de leur personnalité. » Je lui ai expliqué que pour moi, ça restait une opinion plutôt que ce qu'il ressentait. Il resta pensif un moment et ensuite annonça avec véhémence « Je ne ressens rien à propos de ça !» Cet étudiant avait manifestement de forts ressentis. Malheureusement, il ne savait pas comment en prendre conscience ou bien les exprimer. Cette difficulté à identifier et exprimer ses ressentis est courante. Et dans mon expérience, surtout chez les juristes, ingénieurs, policiers, cadres d'entreprise, militaires de carrière, des gens dont les codes professionnels les dissuadent de manifester leurs émotions. Dans les familles, l'addition est sévère lorsque les personnes sont incapables de communiquer leurs émotions. La chanteuse country et western Reba McEntire a écrit une chanson après la mort de son père et lui a donné pour titre « L'homme le plus admirable que je n'ai jamais connu ». Par ce titre, elle exprima certainement les sentiments de beaucoup de gens qui n'ont jamais réussi à établir la relation émotionnelle qu'ils auraient souhaité avec les membres de leur famille. J'entends régulièrement des phrases comme « Je ne voudrais pas que vous m'épreniez, je suis marié à un homme merveilleux, mais je ne sais jamais comment il se sent. » Une de ces femmes insatisfaites amena son époux à un stage au cours duquel elle lui dit « Je me sens comme si j'étais marié à un mur. » Et le mari fit alors une excellente imitation d'un mur. Il resta assis sans rien dire. Exaspérée, elle se tourna vers moi et dit « Vous voyez, c'est comme ça tout le temps. Il reste assis et il ne dit rien. C'est exactement comme vivre avec un mur. » Je lui dis « J'ai l'impression que vous vous sentez seule et que vous voulez plus de contact émotionnel avec votre mari. » Elle dit « Oui. » Et je lui dis « J'ai bien peur que quand vous lui dites des choses comme « Je sens que je vis avec un mur », est-ce que vous remarquez que vous n'exprimez pas vos ressentis lorsque vous dites ça? Vous faites un diagnostic. » Et ce genre de diagnostic conduit souvent à faire se produire ce qu'il décrit. Lorsqu'elle s'exprima, comme je lui suggérais de le faire, en disant à son mari ce qu'elle ressentait, elle lui dit « Je me sens frustrée quand j'ai besoin de contact avec toi, et que je ne sais pas ce que tu ressens. Est-ce que tu serais prêt à apprendre à exprimer tes ressentis plus ouvertement ?» Lorsqu'il entendit ça, le mur se transforma en véritable être humain, et commença à s'ouvrir, et dit qu'il veut faire ça, mais il aurait besoin d'aide pour y arriver, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience pour savoir comment exprimer ses ressentis. Les bénéfices qu'il y a à renforcer notre vocabulaire de ressentis sont clairs non seulement dans les relations intimes, mais également dans le monde professionnel. Une fois, j'ai été engagé pour intervenir auprès des membres du département technologique d'une grande société suisse, qui était troublé d'avoir découvert que les employés des autres départements les évitaient. Lorsque je leur ai demandé pourquoi, les employés d'autres départements répondirent « On déteste aller voir ces gens-là, c'est comme parler à un tas de machines. » Le problème se résorba après que je passe du temps avec les membres du département technologique à les encourager à exprimer plus de leur humanité dans leur communication avec leurs collègues. Une autre fois, je travaillais avec les administrateurs d'un hôpital, qui étaient angoissés à propos d'une réunion imminente avec les médecins de l'hôpital. Ils voulaient que les médecins adhèrent à un projet que ces mêmes médecins venaient de rejeter par un vote à 17 contre 1. Les administrateurs étaient impatients que je leur fasse une démonstration de la façon dont ils pourraient utiliser la communication non violente pour approcher les médecins. Lors d'un jeu de rôle où je prétendais être un administrateur, j'ai commencé ce que je voulais dire par « J'ai peur d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui ». J'avais choisi de commencer de cette façon parce que je sentais combien les administrateurs étaient effrayés alors qu'ils se préparaient à rencontrer les médecins. Mais avant que je puisse continuer, un des administrateurs m'arrêta en protestant. « Vous ne pouvez pas dire que vous avez peur comme ça, vous n'êtes pas réaliste, on ne pourrait jamais dire ça ». Lorsque j'ai demandé pourquoi admettre qu'ils avaient peur était si impossible, il répondit sans hésitation. « Si on admet qu'on a peur, ils vont nous massacrer ». Sa réponse ne me surprit pas. J'ai souvent entendu les gens dire comment ils ne peuvent même pas imaginer de dire ce qu'ils ressentent à leur travail. J'ai été heureux cependant d'apprendre qu'un des administrateurs avait décidé de prendre le risque de révéler sa vulnérabilité lors de cette réunion tant redoutée. Au lieu de sa manière habituelle d'apparaître strictement logique, raisonné et sans émotion, il choisit de dire comment il se sentait en ajoutant les raisons qu'il avait pour vouloir que les médecins changent leur position. Il remarqua combien les médecins lui répondirent différemment de d'habitude. Au final, il a été ébahi et soulagé lorsqu'au lieu de se faire massacrer, comme il s'attendait à l'être, ils renversèrent leur position précédente, votant 17 contre 1 maintenant en faveur du projet. Ce renversement dramatique aida les administrateurs à comprendre et à apprécier l'impact potentiel qu'il y a à exprimer sa vulnérabilité, même dans un cadre professionnel. Merci d'avoir écouté cet épisode du bonheurpourtous.info. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et passez sur iTunes pour lui mettre une note s'il vous plaît, pour que plus de gens soient au courant et qu'ils puissent eux aussi profiter de ce dont on parle ici. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou vos questions sur bonheurpourtous.info ou sur la communauté Google Plus du podcast et comme ça peut-être entrer en contact avec des gens qui comme vous veulent participer à aller vers plus de bonheur pour tous. Et sur le site bonheurpourtous.info, vous avez aussi la possibilité de soutenir le podcast en faisant un don, ça m'encouragera pour la suite. Dans le prochain épisode, on continuera avec le 8e chapitre de la communication non violente. À bientôt !